BFM Bourse, on refait la séance.
Avec Thierry Gauthier, directeur général de GSD Gestion. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Guillaume.
Aujourd'hui, petite pause sur le pétrole, pas sur les taux, non, le 10 ans français. Antoine nous le disait, là, on est en train de le vivre en direct. Le 10 ans français est à 4,45. On est à 4,45 sur le 10 ans français. L'écart de taux avec l'Allemagne, il est plus
95
de
95 points de base.
Exactement. On était à 92 il y a 20 minutes, 93 il y a 4 minutes. Et là, on est à 95 points d'écart de taux
entre la France et l'Allemagne. Et à 60 ou 65 au mois de juin.
Bon.
Oui.
C'est un sujet, ça, quand on gère des portefeuilles essentiellement français, enfin, des small et mid cap en plus, parce qu'on est très exposé à la France sur les small et mid, ça devient...
Ah bah, c'est clairement un sujet. Alors déjà, on gère aussi des poches obligataires, hein, donc c'est clairement un sujet. Et puis, les pressions inflationnistes n'en finissent pas. On l'a vu encore quand Hormuz se referme et que le pétrole remonte à 110. Voilà, ça remonte les anticipations d'inflation, donc ça fait remonter les taux. Et ça, c'est le contexte mondial. Et au contexte mondial se rajoute notre contexte franco-français compliqué avec le budget et la gestion de la dette. Mmh. Et les spreads qui se tendent, passant de 60 points de base en début d'été à 95 aujourd'hui contre l'Allemagne.
Juste avant le week-end.
Donc c'est compliqué.
Mmh. Objectif 100 points de base d'écart de taux, là, on n'y est plus très loin, Antoine.
Bah, youpi les fonds obligataires, youpi les fonds euros. Alors ceux qu'on souscrit maintenant, hein, bien entendu. Mais oui, la dynamique est forte et il faudra commencer à surveiller un petit peu ce qu'on appelle les valeurs taux. Alors déjà, les valeurs bancaires à court terme risquent d'être encore un petit peu privilégiées du fait de ces perspectives, c'est un peu leur carburant. Les valeurs fortement endettées, va peut-être falloir regarder ça d'un petit peu plus près et être un peu sélectif là-dessus sans doute.
Et les foncières qui ont déjà commencé à rebaisser pas
bien
mal.
Bien sûr,
aussi,
ouais. Une belle valeur taux.
Unibail par exemple, mm-hmm, est passé de 105 à 92 euros.
Ça pique.
Ça pèse déjà sur pas mal de secteurs.
Une valeur s'en sort mieux que les autres ce soir. Stellantis, tiens, récupère 3,1%. Même si cette semaine, les actions n'ont pas été très brillantes à nouveau sur Stellantis, il se trouve que Stellantis renonce à son plan d'actionnariat salarié cette année parce que le titre a tellement décroché qu'ils choisissent désormais de moins exposer leurs salariés à cette baisse du titre. Donc, pas de plan d'actionnariat salarié. La question qu'on se pose, c'est... Alors, on comprend, hein, ça part d'une bonne intention, mais est-ce que c'est quand le titre a beaucoup baissé qu'il faut choisir de lui tourner le dos ? Au contraire, s'y réintéresser, Thierry.
Je crois que vous avez répondu à la question, Guillaume. Oui, c'est sûr que de pas faire rentrer les salariés sur des cours de 4 ou 5 euros, c'est peut-être les priver d'une hausse future. Et en tout cas, je trouve que même si c'est gérer la trésorerie, la liquidité au jour le jour, c'est un message assez court-termiste et c'est un message qui est pas très engageant pour le long terme parce que ça veut dire que la direction ou les salariés, on croit plus en ce qu'on fait et on croit plus en l'avenir. Donc je trouve que le message est assez court-termiste et si on n'achète pas du Peugeot aujourd'hui et qu'on n'en est pas convaincu quand on est salarié Peugeot aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la fin. Bah, le titre vaut déjà 4 euros, quoi. Donc on ne peut pas aller beaucoup plus bas.
Alors souvent, dans ces plans d'actionnariat salarié, en plus, les salariés bénéficient d'une décote, souvent de 20%. C'est-à-dire que pour que le titre reperde 20%, il faudrait que...
Bah, c'est ça.
Oui. Donc, alors, est-ce que
c'est un petit peu les priver d'une forte chute des cours de bourse récentes.
Mais est-ce que quand vous privez vos salariés d'actionnariat salarié, vous le faites alors sans doute avec de très bonnes intentions, mais aussi parce que vous savez que le titre va encore baisser, donc peut-être qu'un nouveau profit fourni est à venir, que la direction se dit c'est pas la peine d'y exposer nos salariés. Non, mais on peut tout imaginer, mais est-ce qu'il y a un peu de ça aussi dans les questions qu'on est en train de se poser là autour de l'avenir ?
Je pense pas.
D'accord.
Sincèrement, je pense pas qu'il y ait de prospective sur ce sujet-là. Je pense que voilà, c'est aussi coûteux en trésorerie pour le groupe. Donc, comme le groupe rassemble toutes ses forces aux mêmes endroits et compte les moindres capitaux qui peuvent être engagés, ça évite aussi un peu d'effet dilutif pour les actionnaires qui sont déjà présents. Parce que si on fait des augmentations de capital à ces points-là, ça dilue d'autant plus. Donc non, je pense pas qu'il y ait de mauvais état d'esprit.
Allez, ce soir, non, bon état d'esprit, ouais. Mais voilà, de mauvais infos,
mauvais signal.
Mauvais signal, ouais. Alstom ce soir a progressé. Oui, de quasiment 2,5% plus 2,4%. Alstom remporte un nouveau contrat. Alors des contrats, ils ont l'habitude, mais là, pour la première fois, un contrat pour ces trains à batterie électrique, contrat d'une valeur de 1,2 milliard d'euros en Grande-Bretagne. Ça, c'est un signal positif pour Alstom ?
C'est un très bon signal industriel, ouais, parce que comme vous le dites, c'est sur des trains à batterie électrique, c'est les premiers qui vont être montés sur leur plateforme là en Angleterre. C'est une trentaine de rames qui vont être livrées d'ici 2032. Donc, c'est un contrat de 930 millions d'euros. À cela s'ajoutent 200 et quelques millions d'euros de maintenance sur les années à venir. Donc, oui, c'est un très, très bon signal industriel. Après, voilà, on sait qu'Alstom est très costaud pour remporter des contrats, etc. Mais c'est surtout sur l'exécution industrielle que le bât a blessé ces dernières années, hein, depuis l'héritage de Bombardier. Et les profit warnings qui s'en sont suivis. Donc, c'est surtout là-dessus qu'on les attend. Mais c'est un très bon signal. Et puis, ça s'ajoute aux 3 milliards de commandes qu'il y avait eu déjà la semaine dernière de la part du Canada. Mmh. Et donc, en deux semaines, ils ont rempli le carnet de commandes de deux ou trois fois le montant de ce qu'ils avaient rempli le trimestre dernier. Oui. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à délivrer.
Et tenir les cadences de production.
Et si on y parvient, le titre n'a rien à faire à cet endroit-là et à se payer 10 fois les profits.
15,80€, seulement 10 fois les profits Alstom. Graphiquement, Gilles, on vous retrouve, Gilles Santacreux, boursicoté.com. Graphiquement, vous le sentez comment pour la suite, ce titre Alstom?
Graphiquement, depuis la forte baisse que l'on a eue au mois d'avril, donc qui nous a fait tomber sous la résistance des 17,80, on oscille entre 15 et cette zone justement de résistance des 17,80. Et je dirais, les contrats là que vous évoquiez n'ont pour l'instant rien changé dans la configuration graphique, c'est-à-dire que nous sommes dans une phase horizontale depuis cette forte baisse qui ne donne pas de signal pour l'instant d'inversion de tendance. Donc on reste toujours sur une zone vulnérable, alors qui est totalement neutralisée d'un point de vue court terme. Mais il faudrait au minimum repasser donc au-delà de cette zone, donc 17,80, 18 euros, et surtout ne pas retomber sous la zone des 15 euros, puisque là, on aura un signal de poursuite baissière qui pourrait être assez dynamique.
On vous rappelle la clôture ce soir à plus 0,8 sur le CAC 40, 8 179 points. Les prix à la consommation aux États-Unis progressent bien sûr toujours, mais au même rythme que le mois précédent, plus 3,4%. C'est au-delà des objectifs de la Fed, et les marchés croient toujours à une possible hausse de taux de la Fed la semaine prochaine, on en reparlera. Le 10 ans américain est à 4,95. LVMH, compliquée la phase dans laquelle se trouve LVMH. Le titre a touché un plus bas de 5 ans cette semaine, le titre LVMH, au point que Bernard Arnault n'est plus dans le top 10 des plus grandes fortunes mondiales. Top 10 Bloomberg des plus grandes fortunes mondiales. Désormais, il n'y a que les Américains dans le top 10 des plus grandes fortunes. Bernard Arnault n'est plus que 11e, plus que, voilà. Comment vous regardez l'avenir d'LVMH, qui doit affronter plein de vents contraires, qui s'est fait doubler en capitalisation par L'Oréal cette semaine, Thierry?
On trouve que sur ces niveaux de prix-là, on est sur des opportunités d'achat, parce que c'est un titre qui se paye aujourd'hui 18 fois les profits seulement. C'est presque les mêmes niveaux que le marché. Alors certes, la croissance a beaucoup ralenti, il y en avait presque plus ces derniers trimestres, même si ça avait l'air de vouloir repartir un petit peu sur les derniers chiffres. Mais à ces prix-là, compte tenu des marges qui sont faites par le groupe et de ses positions de leader qu'elle a et de ses marques fortes, on trouve que la décote de 20% qu'elle enregistre par rapport à tout le secteur, qui se paye lui 22, 23 fois, il est vraiment plus justifié. Alors voilà, ils font preuve de malchance. On a vu encore là avec cette histoire sur le logo qui a été repris par un concurrent.
Par Molity, le chinois Molity, qui a été accusé par effectivement LVMH de ressembler trop au logo Louis Vuitton. La justice chinoise a donné raison à LVMH fin juin, mais l'affaire a déclenché en Chine une vague contre LVMH. Les Chinois se sont dit, on va vraiment acheter encore plus de produits Molity. Voilà, une forme de patriotisme des consommateurs chinois face à cette édition de justice.
Qui a un nom d'ailleurs qui porte le nom du Guochao. Je ne sais pas si la prononciation est bonne, mais vous vérifierez. Et qui est voilà un mouvement patriotique qui fait que les Chinois achètent du BYD quand ils vont sur des véhicules face aux étrangers, ils vont sur du Proyal face à L'Oréal. Mais voilà, tous les vents sont un petit peu contraires au niveau des news sur LVMH, mais on y croit.
17h52, le test d'assiduité. Sur les réseaux sociaux, BFM Bourse vous offre un moyen de participer vous aussi à l'émission. Thierry, vous pouvez voter, hein, bien sûr, vous aussi. N'hésitez pas à participer. Les plus assidus d'entre vous seront récompensés. Mais d'abord, vous devez répondre à cette question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux, notre fil X, BFM Bourse et notre fil LinkedIn. Voici la question ce soir. Vous mettez vos réponses en commentaire. Combien d'usines TSMC est-il en train de construire simultanément dans le monde? Combien d'usines TSMC est-il en train de construire à la fois dans le monde? La réponse, vous la retrouverez dans nos replays, dans Textox. N'hésitez pas à participer à cette question d'assiduité. Hier, qui a apporté les bonnes réponses? Émilie et Kiwi, qu'on félicite, qui ont été les premiers à bien répondre. Vous avez la réponse, ne la dites pas à l'antenne, mais vous avez la réponse, Thierry?
Non, franchement, je ne l'ai pas.
Ça vaut le coup d'écouter le replay, c'est renversant, non, c'est vertigineux quand vous découvrirez le nombre d'usines que TSMC est en train de construire, de bâtir simultanément dans le monde. Impressionnant. Les autres valeurs qu'il ne fallait pas rater, tiens, des entrées, bien sûr, au SBF 120 qui ont été annoncées, celles de Genfit et d'Inventiva. Bah, dites donc quel accueil. Genfit perd 5% ce soir et Inventiva, qui va aussi rentrer dans le SBF 120, perd 8%. Ah bah dites donc, ouais. On est ravis d'entrer dans le SBF 120, manifestement.
Alors souvent, il y a des rumeurs d'entrée, et donc les gens en achètent un petit peu avant, ou les trackers, ouais, etc. Et puis le jour de l'annonce...
On vend la nouvelle.
Parce que je crois que ça a été hier, on vend la nouvelle, donc oui, rien de grave non plus.
D'accord, et
mais
qui va
cas,
sortir
le SBF 120 devient beaucoup plus biotech, ouais.
Oui. Je sens que ça vous ravit pas. Vous êtes très méfiant sur les biotech. Bon, en même temps, on sait que de plus en plus avec l'IA, avec l'ARN, etc., les solutions vont venir des biotech.
C'est des dossiers toujours plus difficiles à appréhender. Maintenant, voilà, c'est pas les Genfit notamment est bénéficiaire. Il y a une bonne visibilité sur les produits qui sont vendus et les programmes qui sont réalisés. Donc c'est parmi les biotech sur lesquels il y a les meilleures visibilités.
Merci beaucoup Thierry Gauthier de nous avoir accompagnés ce soir. Il est le directeur général de GSD Gestion. Le CAC, plus 0,8 en clôture, 8179 points. Mais Antoine le soulignait, les volumes restent faibles.